Bonjour, bienvenue sur Radio Esperanza. Donc j'ai avec moi Hippolyte.
Bonjour, oui.
qui revient d'Amérique du Sud et plus spécialement d'Équateur.
C'est ça.
Où tu as passé quelques mois dans le cadre de travail ou d'études.
Bien, en fait, je suis parti 3 mois dans le cadre d'un Erasmus. Je suis actuellement en 3e année d'écologie sociale à la HELB. Et ils nous donnaient des possibilités relativement larges. Alors moi, j'ai choisi un pays d'Amérique du Sud, comme j'étais déjà parti 9 mois en Argentine, donc je maîtrisais l'espagnol. Et je suis parti à Quito, en Équateur, dans un quartier de Quito Sud, donc le quartier populaire dans le quartier de la Dolorosa, le barrio de la Dolorosa.
Oui, voilà. D'accord. Quito, c'est une ville de quelle importance à peu près?
C'est dommage, mais je ne me rappelle plus le nombre de millions de personnes. Je sais juste qu'elle a connu une grosse croissance entre les années 60 et maintenant. Mm-hmm. Ils ont plus que doublé en population.
D'accord.
Mais dans le sud, on voit un urbanisme relativement plat. Donc les maisons, elles font de 1 à 3 étages. Et dans le nord, c'est un peu plus les quartiers riches où ça s'apparente plus à l'Europe, où il y a des buildings et tout ça. Et c'est un peu l'univers de la débrouille, quoi. C'est un pays sans le chômage, tout ça.
D'accord. Les gens doivent trouver le moyen de subsister en fonction de leurs opportunités et de leurs capacités, quoi.
C'est ça. Mm-hmm. C'est la misère un peu plus criante.
D'accord.
Mm-hmm. Travail infantile, tout ça.
Ok. Et tes études portaient là-dessus aussi ou
Bien, mes études en écologie sociale nous permettaient d'avoir un regard combiné entre le point de vue environnemental et le point de vue social. Donc la manière dont un urbanisme détermine les relations sociales. Donc on ne regarde pas seulement l'environnement naturel, mais aussi l'environnement ville, hein, l'environnement urbain. Et comment les relations sociales se construisent à l'intérieur de cet environnement. Donc moi je suis parti dans une école en éducation populaire là-bas en Équateur. Pour observer un petit peu l'éducation populaire là-bas, qu'est-ce que ça représentait pour eux, quels résultats ça donnait, quelles étaient leurs utopies, quelles étaient leurs volontés, et j'ai pas été déçu.
D'accord, et c'était une école mixte, garçon-fille
École mixte,
ah, ouais. Oui, d'accord.
Mmh. Avec okay. La pédagogie de Paulo Freire, le pédagogue brésilien des années 80.
D'accord.
La théorie de la libération, donc qui veut que il a écrit un livre qui s'appelle La pédagogie des opprimés, dans lequel il donne un point de vue relativement classiste sur la société, dans lequel il y a des oppresseurs et des opprimés, et via l'éducation les opprimés se libèrent et deviennent conscients de leur situation et du potentiel d'action qu'ils ont sur le monde, se libèrent et puis libèrent aussi les oppresseurs qui sont aussi aliénés, qui ne comprennent pas la situation dans laquelle ils sont. Donc, il part de la théorie de ce gars-là. Il y a beaucoup plus à développer, bien sûr, mais c'est très long.
D'accord. Donc, oui, c'est vraiment un programme d'éducation sociale assez large, quand même.
C'est ça. Mm-hmm. Ouais. Donc, école nursery, école maternelle, primaire et secondaire. Mm-hmm. Par rapport à la Belgique, où dans les écoles, l'éducation populaire n'a été faite quasiment que pour l'adulte via le décret éducation permanente.
Mm-hmm. Voilà. D'accord. Ah oui, bah, c'est intéressant. D'accord. Je trouvais intéressant de parler avec toi aussi de ce que tu as pu observer par rapport donc à l'éducation, mais aussi par rapport à la condition des femmes actuellement là-bas. On pourra revenir sur les liens entre l'éducation et cet aspect-là un petit peu après.
Ça va voir certainement.
Hein, mais voilà, est-ce que tu peux, je fais donc un grand saut d'abord.
Bien sûr.
Et est-ce que tu peux raconter en quelques mots quelle est la condition de la femme de façon large en Équateur, plus spécifiquement en Amérique du Sud aussi okay. Actuellement.
Mais en Amérique du Sud, via le passé colonialiste qu'ils ont subi, il y a une grosse influence de l'Église catholique qui est toujours présente. Et même les religions antiques, les anciennes religions, les religions Inca, Maya et tout ça, se sont un peu mixées avec la religion catholique. Donc les couches populaires ont absorbé un peu les dogmes religieux de cette Église. Et via leur culture et leur tradition, les personnes indiennes vivent encore avec une grosse ségrégation vis-à-vis des femmes dans les familles. Et ça peut se voir notamment dans l'école où j'ai été travailler, parce que les femmes subissent d'abord un double travail. Elles ont le travail d'éducation des enfants à l'école, à l'école. Et ensuite le travail d'éducation de leurs propres enfants à la maison, et le travail de maintien de la maison. Pendant que les maris, parce que c'est bien sûr sous l'œil du mariage, il n'y a pas encore, ou très rarement, toutes l'ouverture qu'il y a dans les relations amoureuses telles qu'on a maintenant. Maintenant, on parle beaucoup du polyamour, du tout ça. Bon, il y a une vague comme ça en Europe, mais là-bas, ils sont très traditionnalistes et c'est très difficile de sortir de ce carcan. Et donc, elles sont vouées en règle générale au travail domestique et au travail à côté. Parfois, les maris n'ont pas de travail parce qu'il y a aussi du chômage, bien sûr. En plus, maintenant, en Équateur particulièrement, avec la situation du Venezuela, dans lequel c'est la crise totale, tous les Vénézuéliens viennent prendre un travail. Il y a aussi un racisme latent qui s'installe avec les nouvelles immigrations, comme dans beaucoup de pays où des personnes viennent et prennent un travail non qualifié et payé à moindre mesure. Mais donc, soit... à côté de ça, la condition de la femme matérialisée dans l'école dans laquelle j'ai été, ce qui est super, c'est que normalement par vote chaque année ils choisissent le comité de direction, et le comité de direction du coup en règle générale depuis 30 ans dans laquelle cette école a été créée reste dans la même famille, parce que c'est une famille de classe moyenne mixée entre blancs et indiens, et donc du coup ils ont réussi aussi à s'extirper des dogmes culturel dans laquelle les personnes vivent. Et malheureusement c'est ces personnes qui sont réélues chaque année, parce que les Indiens du Barrio de la Dolorosa, les Indiennes, n'ont pas les capacités, d'un point de vue temps, de s'investir dans un poste de direction. Et donc, ça va se matérialiser dans le salaire aussi, et ça va se matérialiser dans le statut social. Et ces femmes ont la possibilité d'accéder à ces postes, mais le refusent.
Ah oui, elles le refusent parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise de le faire, ou parce que ce n'est pas dans les habitudes, ou parce que...
Elles n'ont pas le temps.
C'est juste à cause du double travail, c'est ça. Donc ce n'est pas par manque d'intérêt, c'est par manque de temps, par manque de possibilités matérielles, quelque part.
Oui, parce que quelques-unes ont été éduquées, ont été enseignées à cette école, et donc normalement ont une perspective libératrice de leurs conditions sociales, mais malgré cela elles se sont insérées dans leur culture, et malgré cela elles n'ont pas les capacités d'un point de vue temps, d'un point de vue matériel, d'assumer des postes à haute responsabilité dans cette école. Voilà.
D'accord, et donc voilà, c'est un microcosme qui reflète un peu l'état des choses de manière plus générale dans la société équatorienne.
Ah oui, la société équatorienne est très violente vis-à-vis de la gente féminine par sa culture machiste, en fait. Tout simplement, comme en Argentine aussi, ils ont une culture machiste très importante. Les femmes ont des rôles relativement assignés, et c'est préconçu dans l'idée des hommes. Après tout, dès l'éducation, on a beau dire ce qu'on veut à un enfant. Moi, je suis un homme, par exemple, mais on peut lui dire, voilà, égalité homme-femme et tout ça. L'enfant va se rendre compte des postes clés, par exemple, dans les administrations, par qui ils sont détenus en règle générale par des hommes, de la manière dont on se comporte avec une femme, la manière de paternaliser une femme. On va voir comment les gens se comportent, des comportements qui peuvent être traduits au travers de quelque chose qu'on appelle galanterie, mais en réalité qui relève des positions sociales et des statuts sociaux. Eh ben, là-bas, c'est encore très, très imprégné, et donc c'est pire qu'ici.
Oui, d'accord. Et est-ce que tu... Enfin bon, pour le moment, ça a l'air encore assez coincé, on va dire, assez verrouillé comme ça. Mais est-ce que tu as observé des intentions de changement, ou des choses qui pouvaient laisser espérer une évolution positive, genre par exemple en ce qui concerne la possibilité de divorcer, qui n'était pas le cas auparavant. Que maintenant on accorde aux femmes, justement. Est-ce que tu as pu constater des choses par rapport à ça ?
Particulièrement dans les personnes que j'ai connues là-bas, il y a le cas d'une femme qui était en instance de divorce. Ça a pris bien sûr beaucoup de temps. Elle a eu la chance de s'en échapper sans trop de problèmes. Et grâce aux nouvelles lois qui permettent aux femmes aussi de divorcer, elle a réussi à le faire. Et parce que par avant, la femme ne pouvait pas divorcer. C'était que l'homme qui pouvait divorcer. Donc là, on voit vraiment le machisme qui est retranscrit au travers des lois, quoi. Et donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais ce n'est pas sans difficulté, ni sans pression sociale. Je veux dire, ce genre de choses ne sont pas relativement bien vues dans des quartiers où on parle les uns sur les autres, bien sûr. Donc il y a cette pression sociale. Et donc, même si les lois changent, ça ne veut pas dire que la culture a déjà changé.
Les habitudes de fonctionnement sont encore là. Il faudra beaucoup de temps pour que les gens arrivent à penser autrement déjà et imaginer autre chose, peut-être.
Oui, c'est ça. Et donc du coup, j'ai pu approcher aussi un groupe de féministes, le groupe Viva Nos Queremos, qui, elle, lutte pour le droit à l'avortement, pour
qui n'est toujours pas accordé.
Voilà, qui n'est pas encore accordé. Elles m'ont relaté l'histoire d'une dame qui avait essayé d'avorter, mais illégalement. Et ça s'est mal passé. Du coup, elle est retournée à l'hôpital et le médecin qui était en charge du coup de récupérer, de la soigner, quoi, eh bien, elle a dénoncé.
Ah oui.
Ils ont d'ailleurs une obligation, donc au-delà de leur secret médical, vis-à-vis de la loi, ils doivent dénoncer les personnes qui ont subi des avortements.
Et que risquent les femmes qui sont dénoncées
De la prison.
De la prison, tout simplement. Ouais. Ouais. Elles sont considérées comme infanticides.
Voilà. Voilà. Et il y a un grand mouvement au travers de l'Amérique du Sud maintenant. On a beaucoup d'espoir que les lois changent, notamment au Chili où il y a eu des occupations de facultés, en Argentine. Tout ce mouvement se reconnaît via leur foulard vert pour un changement vis-à-vis des femmes dans les sociétés d'Amérique du Sud et pour le droit à l'avortement.
Oui. Et est-ce que tu penses que ces mouvements en Argentine influencent un petit peu l'Équateur ou le Chili ou d'autres pays d'Amérique du Sud ?
Eh bien, ils se sont réunis lors de la journée de la lutte pour les droits de la femme, via un colloque sur Internet. Donc, les féministes de toute l'Amérique du Sud et notamment de l'Espagne aussi ont essayé de porter cette chose de manière publique, aussi pour dire que voilà, le jour de la lutte des droits des femmes, c'est pas tous les jours chez nous, c'est tous les jours qu'on vit des injustices, c'est tous les jours que les femmes sont ségrégationnées, et donc il y a un mouvement. Après, on va voir qu'est-ce que ce mouvement va donner, et les réponses politiques aussi.
Et par rapport, on va regarder un petit peu de l'autre côté, les hommes que tu as croisés, est-ce que tu penses que de leur côté, les choses évoluent aussi, qu'ils sont prêts à modifier les choses dans leur comportement et dans leurs habitudes?
C'est très curieux. D'un point de vue général, les hommes dans ces sociétés qui ont été conditionnés à un machisme culturel, je pense qu'ils ne sont pas prêts. D'ailleurs, premier exemple, dans la famille dans laquelle j'ai habité, qui est une famille relativement pour le changement social d'un point de vue émancipateur, donc aussi des femmes, la femme ne gérait pas les comptes. Et on voyait que c'était culturel, que le mari sentait que son statut social aussi venait de ce fait de gérer les comptes de la famille. Et c'était très curieux parce que ces personnes qui me parlaient de révolution sociale, de changement, d'un point de vue pratique, n'arrivaient pas à l'appliquer, même avec tous les meilleurs sentiments du monde. Ce sont des personnes que j'estimais beaucoup. Et donc du coup, de ce fait-là, on peut voir que le changement culturel n'est pas encore présent et que ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'années. Alors, je peux donner un deuxième exemple qui est beaucoup plus dur, qui est l'exemple des féminicides qui vivent en masse. Il y a une centaine de femmes qui sont assassinées chaque année en Équateur. D'ailleurs, grâce au divorce, les femmes maintenant demandent le divorce. Mais en règle générale, les hommes n'acceptent pas. Et il en va de violence, il en va d'assassinat et donc de féminicide. Et les affaires en justice, en règle générale, quand elles sont portées en justice, parce qu'elles ne le sont pas toujours, parfois les familles
étouffent l'affaire, voilà, pour ne pas avoir de problème et que ça ne se sache
parfois
pas.
Parfois c'est une histoire de corruption, parfois la famille de l'homme est une famille suffisamment puissante ou suffisamment riche que pour pouvoir payer un silence. Et quand ce n'est pas le cas, elles sont suffisamment puissantes que pour le faire ressentir lors des jugements et que pour avoir un acquittement. Le groupe Viva Nos Queremos avec lequel j'ai passé un petit peu de temps était justement sur une affaire de justice concernant un féminicide et l'affaire traînait et la justice avait l'air d'aller en faveur de l'homme encore une fois.
Ouais, ça se fera pas en une fois donc ça met ça.
Non.
Oui. Et par rapport, pour revenir à l'enseignement, par rapport à la manière dont les petites filles sont éduquées actuellement, est-ce que tu crois qu'on met des choses en place pour. Est-ce que tu as pu observer
Vis-à-vis de l'enseignement, c'est relativement dur de se prononcer parce qu'il y a un enseignement disparate. Il y a les écoles publiques, les écoles dans lesquelles vont les classes plutôt pauvres, qui sont plus des garderies de masse. J'ai eu l'occasion de me rendre dans une de ces écoles et ce sont des classes de 40 élèves dans laquelle les professeurs parfois ne donnent pas cours, dans laquelle les professeurs, s'ils doivent aller discuter avec la direction, ferment la classe pour ne pas que les élèves sortent, la condamnent avec des cadenas par exemple. On a été leur montrer par exemple une programmation musicale qui était développée dans l'école dans laquelle j'ai été et les enfants étaient ébahis. Ce sont des enfants de criminels, ce sont des enfants de personnes des quartiers pauvres et en fait c'est comme s'il y avait un entretien de la reproduction déjà de la criminalité et de leur situation sociale, donc d'un point de vue de la reproduction aussi du machisme et de la situation des femmes, c'est pareil.
C'est ça, on entretient un petit peu les choses dans l'état dans lequel elles sont quelque part.
Sauf dans les écoles privées, à ce moment-là, s'ils sont capables d'allonger un petit peu...
Il y a plus de moyens.
Un enseignement de qualité, dans laquelle, vu que les enfants ne sont pas laissés autant à eux-mêmes, il y a un petit cadre, il y a une autorité de la part des professeurs. Bon, ce n'est pas l'école révolutionnaire Freinet, Montessori ou ce genre de choses, mais c'est déjà un petit peu mieux pour les filles qui sont dans ces écoles-là. Après, dans l'école où j'ai été, il y avait un respect relativement important vis-à-vis des filles et vis-à-vis de toutes les ségrégations. Parce que moi, j'aime bien parler de la ségrégation que vivent les femmes et j'aime bien aussi parler de toutes les ségrégations que vivent tout le monde. Par exemple, il y avait des personnes en situation de handicap cognitif qui étaient intégrées dans chaque classe dans cette école. Et ça, c'était formidable parce que du coup, les élèves apprenaient à respecter cette personne et à voir son intelligence, son type d'intelligence et de ce fait-là à respecter les différences et avoir tous les types d'intelligence dans toutes les personnes et aussi dans la condition des femmes.
Et ça permettait d'élargir un petit peu le regard sur l'autre déjà, pour commencer.
C'est ça en général. Mais c'était des projets pilotes.
Et c'était dans une école de moyens un petit peu plus élevés ou de conditions sociales.
En fait, on peut dire qu'ils sont plus élevés, mais leur financement vient de l'Europe. Ah. Il y a des associations en Suisse et en France, notamment l'association Partage en France et One Direction en Suisse, je crois. Ah non, One Direction, c'est un groupe. Bon, soit. Qui finance par parrainage l'école là-bas sur place. Et donc, du coup, ils peuvent permettre aux enfants de familles défavorisées d'avoir accès à cette école-là. Donc, si les parents n'ont pas de revenus, l'enfant peut avoir accès à l'école.
Mais
si les parents...
Il y a une chance de peut-être trouver mieux, enfin, au final, de pouvoir développer quelque chose.
Sur l'émancipation, ils permettent aux élèves qui veulent se diriger, par exemple, dans des études en langue, de bosser plus les langues, même avoir parfois des cours particulier avec des volontaires qui viennent leur donner des cours en dernières années pour choper la bourse pour aller à l'université.
Et c'est autant pour les filles que pour les garçons.
Autant pour les filles que pour les garçons. Là, moi, par exemple, j'ai créé avec la professeure de sciences sociales un projet d'atelier dans lequel ils vont tous voir un peu qu'est-ce qu'ils vivaient comme injustice. Et il y a des filles qui ont fait le sujet des injustices dues au machisme et tout ça. Et elles ont été présentées leur projet lors d'un concours donné par une université à Quito. Et elles ont gagné le concours. Et donc, on leur permet de prendre conscience de leurs conditions aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes sur place qui acceptent ou peut-être qui se résignent. Et du coup, je pense qu'à partir de ce type de projet pédagogique, on peut essayer d'entamer un changement. L'école peut être un outil du changement.
Oui, c'est ça. Tant qu'on se dit que c'est comme ça que ça doit être, on n'a pas l'intention de bouger quoi que ce soit. Il faut d'abord imaginer que ça peut être autre chose.
Oui.
Oui. Bien, mais merci beaucoup. Tu as encore d'autres choses que tu aimerais partager
Juste point vis-à-vis des mouvements de lutte sur place en Amérique du Sud pour les droits de la femme, je déplore leur division parce que certaines se disent plus prolétaires que d'autres. Enfin, des histoires, des querelles de clochers quoi, dans les luttes sociales. Et c'est vraiment dommage parce elles auraient tout intérêt à s'unir pour lutter parce qu'au final, elles luttent pour les mêmes choses. Et donc.
En justifiant leurs revendications autrement, c'est ça
Voilà.
peut-être. Et oui, en ne voulant pas s'associer les unes aux autres,
Elles perdent de leur force.
bah, évidemment, oui. Oui, donc c'est un problème de hiérarchie sociale aussi quelque part. C'est pas
Oui.
uniquement un problème de différence de sexe et d'habitude de considération homme-femme. C'est aussi un problème qui traverse les différentes couches sociales.
Oui, carrément.
Ah, oui.
Et c'est carrément ça parce que justement ce cas-là, c'était un cas de féministe qui était pointue du doigt comme bourgeoise dans un groupe vis-à-vis d'autres féministes qui se disaient plus venant du peuple, quoi.
Oui.
C'est un peu dommage.
Oui, ben, on peut juste leur souhaiter de trouver un moyen de débattre ensemble de leurs spécificités propres et peut-être des moyens de défendre leurs droits en tant que femmes en ayant conscience que leur situation est différente, peut-être, mais qu'il y a des points communs, quoi.
Oui, c'est ça, qu'il y a des points communs,
Oui.
comme dans toute notre lutte.
Eh bien, merci beaucoup.
De rien, merci à vous.